Frères et sœurs, les amis, pour commencer cette méditation sur ce deuxième dimanche de Pâques, qui est le dimanche de la miséricorde, et pour s'aider les uns les autres à mieux comprendre la richesse de ce deuxième dimanche de Pâques, il me semble bon et utile de rappeler qu'il s'agit d'un dimanche avec quatre appellations différentes. On ne va pas trop s'y attarder. Pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient que ça s'appelle le dimanche in albis. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça remonte à une tradition des premiers siècles de l'Église, où le dimanche qui suivait Pâques, les baptisés, lors de la veillée pascale, portaient à nouveau, donc le dimanche après Pâques, ce dimanche qui nous intéresse, leur robe blanche, symbole de la lumière que le Seigneur leur avait donnée dans le baptême. Alors ensuite, même s'ils avaient enlevé leur tunique blanche, ils devaient continuer à introduire dans leur vie quotidienne la lumière du Christ reçu le jour du baptême, etc. La deuxième appellation, c'est le dimanche de Quasimodo, aussi pour les plus anciens d'entre nous, une appellation qui vient du premier mot de l'antienne d'entrée, c'est-à-dire l'oraison d'entrée de la messe d'aujourd'hui. Quasimodo, geniti, infantes, alléluia, etc. Je vous fais grâce du latin, dont la traduction voulait dire ceci, comme les nouveau-nés, alléluia, ayez envie du lait spirituel pur, alléluia, alléluia, qui vous fait grandir vers le salut. Donc la liturgie, et donc l'Église adresse cette invitation aux nouveaux baptisés. Troisième appellation, c'est le dimanche de saint Thomas, cet autre nom plus répandu dans les églises orientales dérive de l'épisode évangélique lu ce jour d'aujourd'hui, à savoir la manifestation du Christ comme Dieu résultant de l'incrédulité de l'apôtre Thomas, qui ne croit pas au ressuscité jusqu'à ce qu'il l'ait touché. Nous connaissons l'Évangile. Et la quatrième attribution de ce dimanche, c'est le dimanche donc de la Divine Miséricorde. En 1992, le saint pape Jean-Paul II, vous le savez, a voulu que ce dimanche soit célébré comme la fête de la miséricorde divine. Et dans le mot « miséricorde », il a trouvé tout le mystère de la rédemption résumé et interprété pour notre temps. Donc la présence de Dieu opposant les forces de Dieu avec sa puissance totalement différente et divine, avec la puissance de la miséricorde. Parce qu'en fait, c'est la miséricorde qui place une limite au mal, hein, tout simplement. Voilà, donc je ne voulais pas faire trop long, mais rappeler cette historique liturgique qui n'est pas sans intérêt, quelles que soient les générations que nous représentons. Alors je voudrais m'arrêter rapidement sur la deuxième lecture de ce dimanche de Pâques, qui est la première lettre de saint Jean, l'évangéliste. Alors, j'aime beaucoup ces quelques versets qui nous sont donnés, donc du chapitre 5, versets 1 à 6, parce qu'ils sont comme le résumé d'un véritable petit credo, à minima. On dirait que saint Jean a rédigé là une sorte de tout petit credo dans les lignes que nous avons entendues. Voilà. Tout homme qui croit que Jésus et le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Ne serait-ce que ce premier verset est donc l'affirmation d'un premier point, Jésus de Nazareth est vraiment fils de Dieu. Le deuxième point vient tout de suite après, à savoir que celui-là est vraiment né de Dieu. C'est-à-dire que le chrétien est lui-même né de Dieu. Il vit désormais de cette vie nouvelle du Christ et très spécialement, bien sûr, du Christ ressuscité. Et l'autre point, c'est que cette vie nouvelle consiste à aimer Dieu et les autres. Alors, rapidement, on voit bien que dans le premier point, Jésus de Nazareth est vraiment fils de Dieu, c'est ce que nous venons d'entendre. C'est le noyau central de l'affirmation de saint Jean. Alors, on sait très bien dans le contexte combien c'était normal. Les premiers chrétiens ont dû affronter très tôt la persécution juive. Et à la limite, c'est normal parce que pour les juifs, ils représentaient une secte hérétique, pouvons dire, et il fallait absolument empêcher les chrétiens de se développer. Mais il ne faut pas oublier aussi que un grand problème existait aussi, c'était les premières communautés chrétiennes avaient des divisions internes pour être charitables et polis. C'est-à-dire qu'entre chrétiens, on discutait à l'infini sur le mystère de la personne du Christ. Et ce mystère dure et perdure. Donc, on voit bien que les discussions ou les échanges théologiques sur ce sujet très précis ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, saint Jean n'a pas du tout la prétention d'expliquer comment il se fait que cet homme, Jésus-Christ, fait de chair et d'os comme chacun de nous, et mortel comme chacun de nous aussi, soit en même temps le Christ, c'est-à-dire l'envoyé, le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. À la limite, aucun homme, aucun être humain ne peut comprendre, et encore moins pénétrer les pensées de Dieu, car pour l'esprit humain, en définitive, les pensées de Dieu sont proprement impensables. Mais saint Jean persiste et signe, si je puis dire, avec force, que Jésus est en même temps pleinement homme et pleinement Dieu, car ne voir en Jésus que l'homme ou ne voir que Dieu, c'est le diviser. Et donc, on sait très bien que pactiser avec ceux qui divisent, c'est faire le jeu du malin, et donc ce n'est plus véritablement être chrétien. Le deuxième point, le croyant, le chrétien, est lui-même né de Dieu, et il vit désormais une vie nouvelle, une vie d'enfant de Dieu. Voilà, donc, pourquoi il y a les baptêmes des catéchumènes, comme nous avons pu le vivre à notre fête du dimanche dernier au matin, à l'aurore, les catéchumènes deviennent fils et filles de Dieu à part entière, selon leur adhésion à la personne même du Christ et du Christ ressuscité. C'est ce que dit et ce que nous avons lu. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, donc l'affirmation que cet homme de chair et d'os est le Christ, eh bien, tout homme qui croit à cela est vraiment né de Dieu. Donc, voilà pourquoi la profession de foi du catéchumène est un point central, bien sûr, avant de recevoir son baptême, pour être agrégé à la grande famille des enfants de Dieu. Et puis, j'allais dire, ce qui coule de source, le troisième point de ce petit credo que nous donne saint Jean dans cette lecture de sa première lettre de saint Jean, c'est de voir et de constater que la foi et l'amour sont indispensables. Alors, il ne s'agit pas ici d'une morale, bien sûr, mais tout simplement d'une carte d'identité. C'est-à-dire que aimer Dieu et son prochain ne forme qu'un tout. L'amour fraternel est donc une évidence de la foi, et la foi ne peut se développer dans toute sa richesse et toute sa, toute sa force, j'allais dire même toute sa splendeur, que dans les actions charitables, c'est-à-dire dans l'amour du prochain. Voilà, donc je vous invite comme chaque fois à reprendre la lecture durant la semaine de cette lettre de Saint Jean, qui est, me semble-t-il, sur le plan théologique, vraiment l'ébauche d'un petit credo à minima, mais très bien concentré et très bien ramassé sur lui-même, c'est-à-dire le centre et la colonne vertébrale, c'est la personne du Christ, 100% homme, 100% Dieu, fait de chair et d'os, ce Christ qui est ressuscité, que nous fêtons durant tous ces lendemains de Pâques, et ce jusque à la Pentecôte, et bien sûr au mystère de l'Ascension, dans 40 jours, et plus encore, et qui nous font vivre réellement de notre foi, et rendre notre foi tout simplement vivante. Et donc, qu'attendons-nous pour témoigner de cette foi que nous avons célébrée dans la joie le saint jour de Pâques. Amen.